Vous écoutez France Culture.
Troisième temps pour de vrai, ce mercredi d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à la mythologie grecque. Après Lucien Gerfagnon et Pierre Brunel, venus vous parler des trompe-la-mort et mêler le souvenir de leur enfance à l'aube de l'humanité, avant Vincent Delcroix qui viendra demain vous parler d'Achille et Luc Ferry qui sera vendredi notre ultime invité, c'est l'anthropologue Bernard Sergent, chercheur au CNRS, qui vient ce soir vous raconter l'Atlantide. Et pour cause, car Bernard Sergent est notamment l'auteur de « L'Atlantide et la mythologie grecque » paru chez L'Harmattan en novembre 2006. Cette île était plus grande que la Libye et l'Asie ensemble. De là, le passage vers les autres îles était possible aux navigateurs d'alors, et de ces îles, surtout le continent situé en face et qui entoure cette mer lointaine, la mer véritable. Dans cette île, Atlantide, s'était formée une grande et merveilleuse puissance de roi. Elle dominait l'île entière, ainsi que beaucoup d'autres îles et de parties du continent. Outre cela encore, de ce côté-ci du détroit, il régnait sur la Libye jusque vers l'Égypte, sur l'Europe jusqu'à la Tyrrhénie. Mais voilà que, rassemblant toutes ses forces, cette puissance, se jetant à la fois sur votre pays, sur le nôtre et sur tout l'espace compris en deçà du détroit, d'un seul coup, entreprit de les asservir. C'est alors, Solon, que votre cité révéla sa puissance et fit aux yeux de tous les hommes éclater sa vaillance et son énergie. Entre toutes, elle avait le premier rang pour le moral ainsi que pour les arts qui servent à la guerre. D'abord à la tête des Grecs, puis seule par nécessité, abandonnée par les autres, elle en vint aux extrêmes périls, mais elle l'emporta finalement sur ses agresseurs et dressa le trophée. Ceux qui n'étaient point encore asservis, elle les préserva de la servitude. Les autres, tous ceux qui, comme nous, habitent en deçà des colonnes d'Hercule, point envieux à tous, elle leur fit remise de la liberté. Mais dans le temps qui suivit, il se fit des tremblements de terre violents et des cataclysmes. Dans l'espace d'un jour et d'une nuit funeste qui survinrent, de vos combattants, le peuple entier en masse s'enfonça sous la terre. Et pareillement, l'île Atlantide s'enfonça sous la mer et disparut. De là vient que, de nos jours encore, là-bas, la mer est impraticable et inexplorable, encombrée par les bas-fonds de vase que l'île a déposés en s'abîmant. Bonjour Bernard Sergent.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture.
Merci à vous.
Le passage qu'on vient d'entendre est un extrait du Timée, le dialogue de Platon, première occurrence connue du mythe de l'Atlantide.
Du mythe de l'Atlantide,
alors,
oui.
Première question, est-ce que le mythe de l'Atlantide, ce qu'on peut dire du mythe de l'Atlantide, c'est assez rare d'ailleurs d'assister à la naissance d'un mythe, qu'il est de toute pièce l'invention de Platon?
Absolument. Platon est le premier auteur qui en parle dans ses deux ouvrages, le Timée puis le Critias. Et après, il y aura en Grèce ancienne des gens qui vont l'imiter plus ou moins. Mais avant, il n'y a pas.
Mais la première occurrence donc, du mythe de l'Atlantide, c'est Platon. C'est rare ici
d'assister
comme ça à la naissance d'un mythe. Comme on pourrait assister à la naissance d'une rumeur, c'est un privilège.
C'est un cas exceptionnel.
Et c'est l'œuvre d'un écrivain, alors ça.
D'un écrivain, du maître à penser de l'Occident, on peut dire, oui. Donc pas n'importe quel écrivain.
D'où vous vient cette dilection pour l'Atlantide, Bernard Sergent?
Pour l'Atlantide, c'est une chose. On pourrait dire aussi pour la mythologie grecque. Hein. Il est certain que je me suis intéressé à l'Atlantide quand j'étais tout jeune, quand j'étais encore lycéen. À l'époque, je l'apprenais au premier degré, je cherchais où elle pouvait bien être. Et puis, les décennies ont passé. Je suis devenu helléniste. Et quand on est helléniste, le point de vue change. On connaît beaucoup plus les conditions intellectuelles de la vie à Athènes au IVe siècle. On sait ce qu'un Platon peut savoir. Par exemple, il ne peut pas savoir grand-chose en préhistoire, il ne peut pas savoir grand-chose en géologie. Par contre, ce qu'il veut savoir très très bien, c'est sa mythologie.
Et sa géographie peut-être aussi d'ailleurs.
Sa géographie est assez limitée. les connaissances de Platon allaient à peu près jusqu'à la Sicile ou si on veut jusqu'à la Tyrénie, c'est-à-dire la Toscane actuelle. Ça n'est pas très loin. Et puis l'autre côté de la Méditerranée, oui, il avait une connaissance en tant qu'Athénien, c'est-à-dire d'une ville ouverte sur l'extérieur. Il avait une connaissance de l'Égypte, évidemment, de l'Anatolie, de la mer Noire.
On va revenir avec vous, Bernard Sergent, hein, sur la comparaison qu'il faut faire entre Athènes et l'Atlantide, sur le rapport finalement que les deux entretiennent et le récit d'ailleurs de cette bataille qu'il donne dans le Timée, et puis également la version que Platon donne de l'Atlantide dans le Critias. Mais avant cela, il faut quand même revenir sur cette fiction de toute pièce, cette fiction qui, par les effets qu'elle a produits, si on était marxiste, on dirait que les meilleures preuves de l'existence de l'Atlantide sont tous les récits qui ont été faits à son sujet, à la suite de Platon.
Je ne sais pas si un marxiste dirait ça.
À la façon dont on pourrait dire que les meilleures preuves de l'existence de Dieu sont les crimes ou les bienfaits commis en son nom, qu'en dites-vous ?
Écoutez, si vous voulez, mais moi je ne vois pas un marxiste s'appuyer sur les occurrences littéraires pour fonder la réalité d'un mythe.
Laissons le marxisme de côté, revenons à Platon. Platon dit ceci à un moment dans ses dialogues, le fait qu'il ne s'agit pas d'une fiction mais d'une histoire véritable est d'un intérêt capital.
Oui.
On pourrait lui rétorquer que donc, s'agissant ici d'une fiction, son récit n'a aucun intérêt.
Ah mais, bon d'abord il la soutient véritable puisqu'il prétend que ça a été recueilli, ce sont des récits recueillis par Solon auprès de prêtres égyptiens. Et pour un grec ancien, l'Égypte ancienne représente la science. Enfin, c'est un pays de savants. Ils ont beaucoup pris à l'Égypte, les Grecs. Donc, c'est une garantie de sérieux. Hein. Même si nous n'avons trouvé rien en Égypte qui ressemble à ça, pour un grec qui lisait Platon, c'était une garantie de sérieux. Donc, il peut essayer de le faire passer pour quelque chose de sérieux. À mon avis, ce sont des clins d'œil.
Et quelle est l'ambition de Platon en forgeant ce récit ? Parce qu'on a beaucoup parlé dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, d'ailleurs, des mythes platoniciens, de l'usage pédagogique que ces mythes pouvaient avoir, de la vertu pédagogique, cette façon qu'il avait de se soustraire un instant à l'espace du dialogue pour entrer dans une histoire et peut-être conquérir par là même de nouveaux lecteurs, de nouveaux cerveaux. Quelle est la fonction de ce mythe-là en particulier ?
Non, je crois que c'est extrêmement complexe. Il faudrait d'abord se mettre dans la pensée même de Platon. Pour Platon, le monde est cyclique. C'est-à-dire qu'il y a le monde à la forme d'une immense sphère qui est tenue au sommet par une sorte de crochet que tient un personnage qu'il appelle le démiurge. Et cette sphère tourne et quand, en gros, le crochet vient cogner contre le doigt du démiurge, elle repart son sens inverse. Et là, il y a un déluge. Il y a un déluge, donc un bouleversement, une
démolition. Le démiurge, hein, c'est dans le Timée. Hein, ça,
il faut
le préciser pour l'auditeur. C'est la version platonicienne de la Genèse, en somme. Enfin, le récit de la création du monde.
Vous avez c'est dans le Timée, mais dans plusieurs des dialogues de Platon, on a des allusions à cette série de déluges, cette série de bouleversements. C'est vrai que c'est dans le Timée que c'est le plus explicité. Bon, et donc, pour lui, pour Platon, l'Atlantide, la ruine de l'Atlantide, s'insère dans une série de déluges. Hein, c'est celui dont il parle le plus, mais c'en est un parmi d'autres. Une deuxième chose, qu'est-ce qu'il veut dire ? Ben, je crois qu'il veut dire, fondamentalement, il condamne ce que font ses concitoyens. Hein.
Il s'est servi, il a fabriqué ce mythe pour édifier Athènes.
Pour dire aux Athéniens, vous vous trompez. Vous vous trompez en édifiant une puissance maritime, vous ne marchez plus sur vos pieds en quelque sorte. Et bon, là, faudrait entrer dans les concepts platoniciens du même et l'autre, etc. Passer à la mer, c'est passer à l'autre, ce n'est plus être soi chez soi, si j'ose dire.
Que voulez-vous dire, pardon ? Pardonnez-moi cette insiste qui est complexe.
Un Athénien habite une ville.
Bon. Mais c'est une ville portuaire, enfin je veux dire.
C'est une ville portuaire, mais pour Platon, qui descend de l'aristocratie, donc de l'aristocratie terrienne, la réalité d'Athènes, c'est la péninsule de l'Attique, c'est la ville posée sur l'Attique, bâtie sur l'Attique. Donc il condamne cette politique impérialiste qui a été celle de l'Athènes maritime. Ça, c'est une chose. Et évidemment, il s'inspire aussi beaucoup de la guerre avec des guerres médiques. Quand il campe Athènes, ayant battu seul la puissance de l'Atlantide, il réintroduit un motif historique, qui est la victoire d'Athènes sur les Perses, qui était aussi une puissance considérable, sauf qu'il venait de l'autre côté. Il ne venait pas de l'Ouest, mais de l'Est. Et puis, évidemment, il s'inspire aussi de l'Égypte. Là, d'un point de vue seulement iconographique, pourrait-on dire, le temple colossal qui le fait bâtir aux Atlantes, dans la capitale de l'Atlantide, s'inspire certainement des temples gigantesques que les Grecs voyaient stupéfiés eux-mêmes, comme nous encore maintenant, en Égypte. Hein? Donc, c'est un, de ce point de vue-là, c'est un ensemble hein, de données. La condamnation d'Athènes, la référence aux guerres midiques, l'inspiration du modèle égyptien, hein, tout ça fait...
On retrouve des échos d'une méthode de Dumézil, non ? C'est la trifonctionnalité là, dans ce que vous dites. Il y a trois vertus, trois fonctions finalement.
Alors écoutez, j'ai fait dans ce bouquin sur l'Atlantide, j'ai fait un petit chapitre sur les trois fonctions, ce n'est pas de moi, c'est de Luc Brisson.
Mais alors, Luc Brisson, d'ailleurs, qui est l'auteur, oui. il faut le dire, hein, d'ailleurs. Luc Brisson, qui est sous la houlette de qui viennent de paraître les œuvres complètes de Platon, rien de moins.
Bon. Et je crois que vous allez
chez Flammarion.
Vous allez l'inviter bientôt.
Là, on va le recevoir à cette occasion. On va faire une semaine sur les dialogues platoniciens.
C'est un des grands spécialistes français, francophones.
Mais alors, donc, revenons à cette question de historiographique, finalement, de Dumézil, des trois fonctions.
Oui, non, mais je la note à la suite de lui. Dans la description de l'Atlantide, en particulier le jeu sur les couleurs et les choses comme ça. C'est assez, c'est assez compliqué. Hein. Faudrait reprendre le texte, quand tu es dans le texte du Critias, là, cette fois. Bon, moi, disons que j'insiste pas sur... C'est pas le point de vue le plus important, à mon avis. Le plus important pour moi, c'est que, oui, c'est que Platon s'inspire, étant un grec ancien, connaît à fond sa culture grecque ancienne et s'inspire d'idées qui sont des idées qu'il avait depuis qu'il était petit garçon. Un petit garçon grec apprenait un certain nombre de choses, comme un petit garçon français maintenant, et une petite fille aussi d'ailleurs. Et donc, ça fait partie de sa culture de base. Je vous donne un exemple tout de suite. Quand il nous décrit une guerre qui oppose les Atlantes et les Athéniens, les Atlantes sont issus de Poséidon. C'est Poséidon, c'est le dieu Poséidon qui a épousé une fille sur l'Atlantide.
Cléito.
Et les rois descendent de cette union primordiale. Tandis qu'au côté athénien, Athènes a comme garant, comme protecteur, Athéna et Héphaïstos. Or, dans mon livre, je note qu'il y a rien moins que trois guerres mythiques grecques qui avait exactement le même schéma, qui opposait des protégés d'Athéna côté est et des protégés de Poséidon côté ouest. Et parmi ces trois guerres, une appartient à
donc
la tradition...
Donc l'Atlantide côté Poséidon, Athènes côté Athéna, évidemment.
Voilà. Bien. Et une de ces trois guerres est athénienne. Elle fait partie de la tradition que nous appelons mythologique, mais que les Athéniens considéraient comme historique, bien entendu. C'est leur guerre contre leur voisine Éleusis, à très haute époque. Hein. Les gens d'Éleusis sont pour protéger... sont dirigés par des fils ou petits-fils de Poséidon, tandis que côté athénien, le roi Érechtheus, roi d'Athènes, a un char qui lui a été donné par Athéna. Donc le même schéma, ce schéma théologique hein, qui oppose Athéna et Poséidon appartient donc à la culture du petit garçon Platon depuis qu'il a appris à parler grec.
Ah, c'est passionnant.
Et c'est cela qu'il refait jouer. Hein, quand il construit le mythe de l'Atlantide.
Donc vous voulez dire que le petit garçon Platon se voit raconter par sa nourrice ou sa maman ou son papa quand il est tout petit la gigantomachie qui oppose la déesse de la sagesse au dieu de la mer,
oui.
Et qu'il en donne une traduction mythique en inventant de toutes pièces le récit de l'Atlantide,
voilà.
Quand il invente le récit de la création du monde.
Ouais, c'est-à-dire qu'il...
Quand il raconte la création du monde, dans
rejouer,
le dialogue...
Il fait rejouer, si j'ose dire, aussi comme au sens où une faille joue, il fait rejouer un schéma théologique. Hein, qu'il n'a pas inventé, qui appartient à sa culture de grec ancien.
Mais alors, restons un instant justement sur le dialogue dans lequel on a cette apparition de l'Atlantide. On va lire tout à l'heure et entendre le passage du Critias hein, dont vous parlez, où on entre davantage dans la description même du lieu,
oui.
Atlantide. C'est-à-dire on est à l'intérieur du lieu. Là, il y a moins de contours géographiques, il y a plus de matière. On verra ça tout à l'heure. Mais restons un instant sur le dialogue. Alors, pour mémoire, hein, on l'a dit tout à l'heure, le dialogue, le Timée, enfin le dialogue, il faut le dire vite d'ailleurs, parce que le récit du Timée, mm-hmm. C'est le récit de la création création du monde par un dieu qui n'est pas un dieu ex nihiliste, au sens où il ne crée pas le monde d'une pichenette à partir de rien du tout, mais au contraire, une matière presque lui préexiste, ou en tout cas est simultanée avec lui. Et Dieu, comme un potier, comme un artisan, comme un ouvrier même, dit Platon, travaille cette matière.
Dit, le démiurge, le sens propre du mot, c'est pratiquement ouvrier.
Enfin, ouvrier, c'est, c'est celui qui travaille avec ses mains, c'est celui qui met les mains dans la glaise. Et effectivement, c'est la conception platonicienne de la divinité. Pourquoi avoir dans un texte qui raconte ceci, éprouver le besoin d'inventer le mythe de l'Atlantide?
Moi, je pense que c'est une habitude qu'il avait, ça, que vous avez signalé tout à l'heure. Il aimait bien, Platon, terminer ses dialogues, c'est pas le seul, plusieurs des autres de ses dialogues se terminent par un mythe. Il adore ça. Lui qui a passé son temps à défendre
dénoncer les histoires de bonnes femmes,
à dénoncer les histoires de bonnes femmes, à défendre un discours rationnel, argumenté, etc. Il passe au mythe exemplaire, disons, qui permet d'illustrer de manière très parlante une partie des propos qu'il a tenus dans le corps du texte. Je pense que c'est là qui je peux pas aller jusqu'au bout, je peux pas reconstituer ce qui s'est passé dans la tête de Platon. Évidemment, je ne peux pas interviewer Monsieur Platon pour lui demander ce qu'il a fait. Mais en tout cas, c'est intéressant que ce premier texte sur l'Atlantide, donc un effondrement, qui comprend une croissance, une apogée et un effondrement, soit à l'issue d'un dialogue où il a montré son système du monde, avec le démiurge qui amène, qui fait tourner la sphère du monde, et cette sphère du monde qui peut renverser tout quand elle fait demi-tour.
Les richesses possédées par les descendants d'Atlas étaient d'une abondance telle qu'il n'en a jamais jusqu'à présent existé de pareil dans une dynastie royale et que par la suite, il n'en existera jamais une autre. En outre, tout ce qui se travaillait dans la ville était pour eux aussi bien que tout ce qu'il y avait d'œuvres de travail dans le reste du pays. Quoi qu'il leur vint effectivement du dehors, en raison de l'étendue de leur puissance, un très grand nombre d'articles, c'était l'île cependant qui fournissait elle-même la plupart des choses qui contribuent à l'équipement de la ville. La pâture pour les animaux en général, pour tous ceux des marais, des lacs et des fleuves, et inversement, pour tous ceux de la montagne comme pour tous ceux de la plaine, pour tous, sans exception, y étaient à satiété, sous leurs pas, même identiquement pour l'éléphant qui, de sa nature, est le plus grand et le plus vorace. Ajoutez à cela que tout ce qu'à présent la terre nourrit, ça ou là, d'odoriférants, en fait de racines ou de petites herbes ou de bois ou de sucs distillés, soit des fleurs ou bien des fruits, tout cela, le sol de l'île excellait à le porter et à le nourrir. Ce n'est pas tout encore. Les fruits cultivés, ces fruits séchés qui servent à notre alimentation, tous ceux que nous utilisons pour faire des farines et aux diverses espèces desquelles nous donnons d'une façon générale le nom de graines légumineuses, cet autre tellement ligneux qui fournit boissons, aliments et onguents, ces fruits à écorce que produisent certains arbres qui, servant à l'amusement et au plaisir pour cette raison, ne prêtent pas à l'approvisionnement de réserves, tout ce que nous offrons comme un agréable réconfort d'après souper aux convives qui souffrent d'avoir trop mangé, toutes ces choses sans exception, l'île qui existait alors sous le soleil, les portait dans leur sainte beauté, aussi merveilleuse qu'innombrable. Profusion et autarcie, Bernard Sergent. Atlantide est suffisante, autosuffisante, en vertu d'ailleurs d'un idéal grec bien connu qui veut que la autarkeia, ou l'indépendance, cette figure de l'indépendance, soit la chose la plus enviable et qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les systèmes utopiques.
Voilà, vous avez tout à fait raison. Ici, au moins, on peut dire que l'Atlantide est une forme d'utopie. Il y a une discussion entre les spécialistes. Est-ce qu'on peut l'appeler ou non Éthiopie? Mais là, oui, sur ce point-là précis...
Quels
oui.
seraient les arguments en faveur de la thèse selon laquelle l'Atlantide est une utopie?
Quand des auteurs, dans des temps postérieurs, ont bâti des utopies, ces utopies se voulaient des modèles. L'Atlantide n'est pas un modèle. Elle est un échec. Et un échec qui s'est effondré sous les eaux de la mer. Donc c'est presque l'inverse d'une utopie.
Est-ce un échec ou est-ce une perfection d'emblée présentée comme... Pourquoi le déluge d'ailleurs? Est-ce que on n'arrive pas vraiment à savoir dans le portrait que Platon fait de l'Atlantide si le déluge sanctionne l'hubris dont on a parlé avec Pierre Brunel et oui. Lucien Gerfagnon déjà, hein, la démesure,
oui.
si le déluge est une sanction de la démesure à la façon du déluge biblique,
oui.
ou si au contraire, donc si c'est un déluge rédempteur finalement, ou si c'est la catastrophe qui emporte avec elle un âge d'or que Platon nous présenterait donc comme irrémédiablement révolu.
Je pense qu'il y a les deux, et à l'intérieur même de la culture grecque. D'une part, les Grecs racontaient plusieurs mythes de déluge, et souvent la cause du déluge, comme un peu partout sur Terre dans les mythes de déluge, c'était un phénomène d'hubris. De démesure, quelqu'un avait importuné le dieu, par exemple Zeus, et il s'en suivait un déluge. Les Grecs ont connu aussi, et ça je le cite dans mon bouquin, en particulier dans l'île de Rhodes, je dis que Platon est en accord avec certaines idées qui circulaient à l'île de Rhodes, c'est pas du tout impossible, hein, les idées circulaient en mer Égée. D'un phénomène cyclique du déluge. Le déluge revient périodiquement alors là aussi à Rhodes, c'est pour punir des gens qui ont fait des crimes ou des choses considérées comme des crimes, donc des phénomènes d'hubris, encore une fois. Ça s'intègre. Il y a donc les deux. Il y a superposition des deux. Hein. Pour Platon, il y a une responsabilité. Les Atlantes ont exagéré, ont eu un comportement d'hubristesse en voulant se lancer à la conquête du monde, mais il y a aussi cette notion dont on parlait tout à l'heure d'un déluge périodique qui revient régulièrement chaque fois que la grande sphère cosmique a tourné dans un certain sens, hein, et qu'elle revient en arrière, eh bien à ce moment-là le monde est noyé, ça fait un tel bouleversement que le monde est noyé, et là c'est mécanique. C'est mécanique. Autrement dit, il y a bien superposition des causalités. D'une part, l'hubris dans le cas des Atlantes, c'est certain. D'autre part, le déluge régulier qui doit refaire partir le monde à zéro.
Mais les Atlantes sont-ils perçus par Platon comme une civilisation corrompue ou comme ce qu'Athènes aurait fait de meilleur ou aurait pu être de meilleur?
Il le dit en toutes lettres. En eux, c'est dans le Critias, c'est donc un autre passage, en eux, l'élément divin s'était corrompu. À force de mariage entre... disons que le premier couple unissait Poséidon...
Par endogamie
Oui, c'est une sorte d'endogamie, mais ce n'est pas tellement l'endogamie qui est mise en accusation. Je ne suis pas sûr qu'un Platon aurait condamné beaucoup...
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, oui. C'est
oui.
Pas,
non, c'est
il
pas...
Il aurait son... davantage condamné justement l'altération
oui.
Par l'introduction d'éléments exogènes ou
voilà,
extérieurs, comme
voilà,
on dit.
Voilà, tout à fait. Bon, donc ce n'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est que Poséidon n'a joué un rôle de géniteur qu'au point de départ de l'Atlantide. Il s'est uni à la première femme de l'Atlantide, Cléito. Ils ont eu des enfants, et ces enfants se sont en gros mariés entre eux, ou en tout cas avec des êtres humains. Donc l'élément divin a diminué. Et il le dit en toutes lettres, hein. Il faudra retrouver le passage, je ne peux pas vous le dire de mémoire ici. Mais la cause, pour lui, il y a bien corruption du divin par l'humain.
Corruption du divin par l'humain?
Oui. Puisque le sang apporté par Poséidon s'est dilué peu à peu dans les générations humaines. Si d'autres dieux étaient venus se marier avec des femmes atlantes ou des déesses avec des hommes atlantes, ce serait quand même singulier. Bon, à ce moment-là, l'élément divin aurait été restauré. Mais non, il n'a pas été restauré. Il n'y a que Poséidon au début.
C'est intéressant parce que c'est une façon pour Platon de dire que l'homme, c'est la mort de Dieu.
pour Platon et pour beaucoup de gens sur Terre qui ont appelé les dieux les immortels en les opposant aux hommes qu'ils ont appelés les mortels.
Ich unglücklicher Atlas, eine Welt, die ganze Welt der Schmerzen muss ich tragen, die ganze Welt muss ich tragen. Ich trage Unerträgliches und brechen will mir das Herz im Leibe. Stolzes Herz, du hast es ja gewollt. Du wolltest glücklich sein, unendlich glücklich oder unendlich elend, unendlich elend. Stolzes Herz, und jetzt so bist du Ich unglücklicher Atlas, die ganze Welt der Schmerzen muss ich tragen, die ganze Welt muss ich tragen, die ganze Welt der Schmerzen muss ich tragen.
Le chant du cygne dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, une mélodie de Schubert sur un poème de Heine. Et Bernard Sergent qui est avec nous aujourd'hui dans une semaine que Les Nouveaux Chemins consacrent à la mythologie grecque pour nous parler de l'Atlantide. Bernard Sergent qui est notamment l'auteur de l'Atlantide et la mythologie grecque avec une préface de Luc Brisson, effectivement j'ai omis de le dire tout à l'heure, paru chez l'Armatan en 2006, un livre passionnant dans lequel, Bernard Sergent, on trouve notamment, entre autres choses passionnantes, le parallèle, avec les divergences naturellement, qui existent entre la Phéacie, dont je compte sur vous pour nous rappeler ce qu'elle est, et l'Atlantide. Que vaut ce parallèle? D'où vient-il? Et qu'est-ce que la Phéacie, déjà?
Alors, écoutez, on revient au petit garçon Platon. En tant que petit garçon athénien éduqué, il avait appris, sinon l'Iliade et l'Odyssée entière, je ne sais pas, mais ce n'est pas impossible. Ça, il faut bien dire que ce n'est pas impossible. En tout cas, il en avait appris de longs passages, forcément. La culture grecque ancienne est très largement marquée par l'héritage homérique. Hein. Donc un grec éduqué lit et apprend par cœur des morceaux entiers de ces deux poèmes.
Or la Phéacie, pour l'auditeur qui n'a pas tout à fait l'Odyssée en tête...
Oui, bon, on y vient.
Allons-y.
On y vient. Alors donc la Phéacie, c'est un pays occidental dont parle l'Odyssée. Dont elle parle même beaucoup, puisque tous les récits que fait Ulysse dans l'Odyssée sur ses propres voyages, qui est la partie la plus connue de l'Odyssée, mais il le fait en Phéacie. Il est accueilli par le roi de Phéacie, et c'est là qu'il y a...
Alcinous. Hein.
Alcinous, oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des jeux, il y a des fêtes, bon, et puis on demande à Ulysse de raconter ce qui lui est arrivé, et il raconte. Donc cette Phéacie est extrêmement intéressante. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, rien que sur elle, bien entendu, et pas seulement avec la comparaison avec l'Atlantide. Bah, disons qu'elle a deux points communs fondamentaux avec l'Atlantide. Oh, même deux, il y en a trois. Premier point commun, ces rois descendent de Poséidon, comme les rois de l'Atlantide. Deuxième point commun, c'est une île occidentale. Quand on dit occidentale, évidemment, il faut bien comprendre que pour les Grecs, l'Occident en question, c'est extrêmement flou. Hein, ce qu'ils savent surtout, c'est qu'il y a un océan, mais l'océan, déjà Platon, est déjà très, très avancé en le faisant commencer aux colonnes d'Hercule. À une génération ou deux avant, on les faisait commencer plus près, hein, disons vers la Corse, la Sardaigne. Hein. Bon, donc c'est très flou tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a cet océan, l'Okéanos, et derrière, il y a le monde des morts. La Phéacie est donc, dans l'Odyssée, cette île qui est entre le monde des hommes et le monde des morts. Dans un article que j'ai écrit ailleurs, qui n'est pas dans ce livre, je montrais justement les points communs de la Phéacie avec le monde des morts. Des points communs très précis. C'était une sorte de, la Phéacie, une sorte de monde des morts sous la vision...
Vous diriez que ce serait le second séjour d'Ulysse ou le premier dans l'Hadès, hein?
Voilà, mais sous la vision, positive. Voilà, c'est l'inverse du monde des morts froid et triste que Ulysse visite à un moment. C'est le monde, c'est presque les îles des fortunés, hein, presque les îles fortunées, hein, les îles des bienheureux. Voilà. Donc bon, ça, passons. Donc un Platon connaissait tout ça. Je disais qu'il y avait trois points communs, donc descendance de Poséidon, île dans l'océan occidental, et le troisième point commun, c'est que la Phéacie n'a pas été engloutie sous l'eau, mais il lui est arrivé quand même un ennui, d'après l'Odyssée. Hein. Comme Poséidon est furieux que les Phéaciens aient reconduit Ulysse chez lui, le bateau qu'il a ramené devant, qui arrive au port de la Phéacie, est pétrifié devant ce port. Donc on a une pétrification. Alors, le rapport peut paraître lointain entre l'Atlantide qui est engloutie et le bateau qui est pétrifié. Seulement, il faut savoir que, justement, le nom de l'Atlantide est lié au géant Atlas, que le géant Atlas est lié à une montagne, que lui aussi, il est lié à des histoires de pétrification. Hein. Donc, c'est bien, pour les Grecs anciens, c'est bien le même paquet d'idées.
Hein. Pourquoi la pétrification et Atlas ? On va revenir sur cette comparaison avec la Phéacie, parce qu'il y a plein d'éléments. Mais pourquoi Atlas serait-il lié à la pétrification ? Et d'ailleurs, y a-t-il un lien de parenté entre Atlas, roi d'Atlantide, seigneur d'Atlantide, et Atlas, celui qui porte le monde sur ses épaules et que Hercule vient duper pour récupérer les pommes du jardin des Hespérides ?
Bon, alors, premier point, pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre Atlas et la pétrification ? Disons que les Grecs ont oscillé entre quelques idées, dont l'une, c'est le géant, donc un personnage de forme humaine qui soutient le monde, dont d'autres sont des colonnes. Hein. Autrement dit, on passe facilement, en pensée grecque ancienne, de l'idée géant d'ampleur cosmique à colonne d'ampleur cosmique. Hein. Bon, et puis, vous savez que dans la suite des temps, il a été identifié la chaîne de l'Atlas. La chaîne de l'Atlas en Afrique du Nord vient directement du géant Atlas. L'Atlantide vient aussi du même nom. Atlantide, c'est Atlantique, c'est l'île Atlantique dans Platon. Et Atlantique, c'est un adjectif dérivé du nom d'Atlas, parce que ce géant Atlas était situé à l'Occident. Donc on l'a nommé l'océan Atlantique, le nôtre, qui s'appelle encore comme ça, et l'Atlantide, l'île Atlantide, pour la même raison. Ce sont des personnages de l'Occident. Hein. Atlas est fille, est père des Hespérides, c'est-à-dire
les Hespérides qui gardaient les fameuses pommes d'or. L'un des travaux d'Hercule consistait à récupérer les pommes d'or.
Et dont le nom évoque le soir.
Et dont le nom
Hespérides s'est apparenté à Vespéral en français. Hein,
ce que vous dites d'ailleurs nous donne un immense regret là, à nous tous au chemin, Bernard Sergent. On aurait dû faire une émission sur les 12 travaux d'Hercule. On le fera.
Mais bien sûr.
On aura d'autres occasions.
Mérite.
Mais absolument, il les mérite. Il mérite une semaine entière. Continuez, pardon. Je ferme.
Alors, sur la Phéacie, donc je pense que un Platon connaissait évidemment ces mythes de la Phéacie, connaissait toutes ces légendes, et il s'en est inspiré. Il s'en est inspiré beaucoup. Entre autres, la Phéacie a aussi 10 rois, ce qui est singulier, une petite île pas très grande apparemment, qui a 10 rois. Or, l'Atlantide a aussi 10 rois. Elle est partagée en 10 royaumes. Tout ça, Platon n'avait pas besoin de l'inventer. Il lui suffisait de se rappeler ce qu'il avait appris.
De se rappeler ce qu'il avait appris quand on lui lisait l'Odyssée
de Homère. Et qu'on lui faisait apprendre, oui.
Est-ce qu'il n'y a pas un autre point commun entre la Phéacie et l'Atlantide qui serait sa fertilité ? La fertilité, la profusion, en somme. L'idée que ce sont des lieux d'abondance. C'est en cela, si vous voulez, qu'on a une représentation mythique. Et en général, d'ailleurs, dans l'inconscient collectif, une représentation très, très favorable de l'Atlantide, un peu comme celle d'un paradis perdu. Quelle est la place qu'occupe cette profusion, cette fertilité invraisemblable, à la fois de la Phéacie et de l'Atlantide ? Que signifie-t-elle ?
Là, encore une fois, on le disait tout à l'heure, ça rejoint pratiquement l'idée d'utopie, et on peut dire aussi de paradis perdu. Il faut savoir que pour les Grecs anciens, l'eau est ambiguë, mais dans cette ambiguïté, il y a un côté extrêmement positif. Ils savaient très bien que, eux qui habitaient un pays assez sec, que s'il pleuvait, ça allait mieux pour les cultures. Donc, Poséidon a cette ambiguïté. Il est le dieu terrible qui peut faire des tempêtes et qui fait des ennuis terribles à Ulysse en détournant son navire, etc. Mais il est aussi le dieu qui fait pousser, hein, Phutalmios. Phutalmios est une épithète cultuelle de Poséidon en Grèce ancienne. Phutalmios, c'est celui qui fait pousser. Donc, Poséidon peut, entre autres choses qu'il fait, présider à une abondance agricole.
Les habitants de la Grande Atlantide connurent une grande prospérité. Le récit et la description fait par un homme célèbre de chez vous raconte que la descendance de Neptune s'était installée là. Cet auteur a décrit le temple magnifique, le palais, la cité, la colline et les multiples cours d'eau aisément navigables qui, comme autant de chaînes, encerclaient le site en question et son temple. Il vous a rapporté même que les hommes accédaient à ce temple en gravissant plus d'un degré, comme si ce chemin ascendant était une échelle vers le ciel. Le texte que je viens de lire, Bernard Sergent, est extrait de La Nouvelle Atlantide de Francis Bacon, qui est donc l'utopie scientifique de Francis Bacon. D'ailleurs, qui est un texte tout à fait étonnant. Vous l'avez en tête ou pas, La Nouvelle Atlantide? C'est extraordinaire parce qu'il y parle de Ben Salem, donc fille de la paix. Cette île dans laquelle on trouve des grottes, des tours, des puits pour conserver les corps, produire les métaux, fertiliser le sol, soigner les maladies, des grands lacs d'eau douce qu'il appelle de l'eau de paradis. Bacon a même inventé les OGM. Il parle des avions et il parle même des sous-marins, rendez-vous compte. Mais alors, ce qui est intéressant dans La Nouvelle Atlantide, Bernard Sergent, de Bacon, c'est qu'il revient sur l'ancienne Atlantide, à laquelle il accorde une certaine forme de foi, de possibilité. Donc, à l'intérieur même d'un récit mythique, il y a une mise en abîme et le récit d'un autre mythe, son mythe générateur, à l'intérieur même de ce récit mythique. Et ce que Bacon raconte ici se trouve dans le Critias. C'est le texte qu'on a entendu tout à l'heure, qui est donc la deuxième occurrence de l'Atlantide chez Platon. Quelle est la différence entre la façon dont Platon en parle dans le Timée et la façon dont il en parle dans le Critias?
Alors là, on touche à des grands mystères platoniciens. Quand Platon parle de l'Atlantide dans le Timée, ça ne tranche pas sur son habitude de raconter un mythe à la fin d'un dialogue. Avec le Critias, on a une autre chose. C'est un dialogue beaucoup plus court que tous les autres.
Inachevé.
Inachevé. Qui se résume à parler du mythe qui avait été évoqué dans le Timée. Donc il consacre cette fois... Ça y a plus tellement, on peut dire, qu'il développe. Il développe.
Il a écrit le Timée avant le Critias.
Ah oui. Ah oui, oui, oui. Alors, justement, on spécule sur les raisons pour lesquelles il n'a pas terminé le Critias. Est-ce qu'il l'a inachevé parce qu'il est mort, tout simplement? Ou est-ce que ça faisait partie du jeu? Il avait dit l'essentiel et puis ça suffisait. Enfin, toujours est-il qu'il y a ce dialogue, le Critias, ce dialogue court et entièrement consacré au mythe de l'Atlantide, et là où il est prodigieusement enrichi par rapport au Timée.
Mais alors qu'est-ce qu'on trouve dedans?
Eh bien, on trouve surtout la description de l'île Atlantide. C'est là qu'on a le récit de Poséidon s'unissant à une jeune fille et engendrant les rois de l'Atlantide. Et on a la description de la capitale de l'Atlantide, la description de sa marine extrêmement puissante, de ses ports. Et puis ça se termine avec la description du temple. Ça se termine, je crois, hein, avec la description du temple colossal fait par Poséidon au centre de la capitale.
Et ça commence par Timée qui cède la parole à Critias. Donc on est à la fin du Timée. En fait, le discours du Critias commence immédiatement après le Timée, dans l'ordre de présentation.
Il y a tout un jeu
théâtral.
Dans Platon,
presque,
dans Platon, il y a un jeu. Ça nous écarte un peu de ce qu'on est en train de dire.
C'est pas grave.
Mais par exemple, on nous dit volontiers que le Timée a été dit, enfin c'est un dialogue d'un certain jour, et c'était le lendemain du jour où un autre dialogue avait été celui qui forme le livre de la République, hein, des choses comme ça. Il y a tout un jeu éditorial, on pourrait dire, qui met en relation chronologique les textes de Platon. Oui.
Alors je voudrais revenir sur ce tempérament impérialiste des Atlantes. Pourquoi les Atlantes ont-ils voulu dominer la Grèce, en somme ? Pourquoi les Atlantes ont-ils débordé, en somme ? Parce que de ce point de vue, on s'est posé la question de savoir tout à l'heure si l'Atlantide était une utopie. Si l'Atlantide est une utopie, il n'est nul besoin, elle ne peut pas être impérialiste. Le propre
Exactement.
Des utopies, c'est qu'elles sont protectionnistes, justement.
Exactement.
Elles ne sont pas impérialistes. Or, le comportement des Atlantes est un comportement belliqueux.
Oui.
Pourquoi avoir forgé ce tempérament belliqueux ? Que signifie-t-il ? Et d'où vient ce récit de cette guerre qui a 9000 ans ? Pourquoi 9000 d'ailleurs ?
Alors, bon, pour le caractère belliqueux, on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que Platon condamne la politique impérialiste, belliqueuse de sa propre ville. Athènes, après avoir bâti sa marine, s'est lancée dans une conquête dont on sait qu'elle n'a pas été très drôle tout le temps. Hein. Ça avait beau être une démocratie, pas plus que nos démocraties à nous, elle ne fait que des choses très jolies. Donc oui, les conquêtes athéniennes, elles ont choqué Platon. Et il les condamne. Donc oui, donc c'est une politique transmarine, belliqueuse. Vous me posez la question des 9000 ans.
Mais oui, les 9000 ans, d'où vient ce mythe des 9000 ans ?
Alors effectivement, Platon dit, donc c'est dans le Critias, hein, que ce qu'il raconte se passait 9000 ans avant lui. Là, c'est une donnée tout à fait exceptionnelle, dans la mesure où les Grecs anciens n'avaient pas du tout, une échelle de temps qui remontait aussi haut. On a plusieurs chronologies grecques. On a le marbre de Paros, on a la chronologie d'Ératosthène, on a quelques autres, Eusèbe, etc. Les Grecs avaient une notion du temps qui remontait à un peu plus de 1000 ans. Ça veut pas dire que ce qu'ils disaient qui avait lieu 1000 ans avant était exact. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, ils avaient une notion du temps qui pouvait remonter en gros à 1000 ans. Mais ils étaient entourés de cultures qui remontaient plus loin. En particulier l'Égypte, qui comptait en plusieurs millénaires, bien entendu. Alors, Platon, est-ce qu'il a voulu dépasser encore l'Égypte en alignant 9000 ans ? C'est le seul endroit de mon livre où je suppose qu'il a pu emprunter une donnée extérieure à la Grèce. En fait, les Grecs avaient comme voisins, à l'époque de Platon, il suffisait de traverser la mer Égée, c'était juste en face, l'Empire iranien. Et les Iraniens, eux, ont une notion d'un temps qui se développe en triade de millénaires. Et donc la notion de 9000 ans apparaît en Iran. Par exemple, pour nous dire 3000 ans où l'esprit mauvais a dominé, où l'esprit pur et bon a dominé, 3000 ans où l'esprit où les deux esprits ont co-dominé, et 3000 ans ensuite où l'esprit bon et pur domine. Voilà. Donc on arrive à 9000 ans en Iran assez facilement. C'est des choses inhérentes à la culture
iranienne. Mais est-ce que ça ne tient pas à un tempérament numérologique chez Platon qui lui viendrait peut-être de Pythagore d'ailleurs, tout
alors,
simplement
alors, vous avez tout à fait raison. Hein. Platon est un successeur de...
Il a la superstition du chiffre quand même.
Oui, c'est
on
un successeur de Pythagore.
Tout le temps chez Platon.
Hein. C'est une sorte de pythagoricien.
Il faut rappeler d'ailleurs pour mémoire que Pythagore est l'inventeur du mot philosophie.
Oui.
Dont
oui.
Platon est le premier exégète finalement. Mais le mot philosophie, l'amour de la sagesse, est inventé par Pythagore.
Oui, oui. Alors Pythagore et les pythagoriciens. Platon fréquentait les pythagoriciens. Il
qui donnait
son meilleur ami, c'était un pythagoricien. Et en fait, il est lui-même une sorte de pythagoricien. Hein. Un pythagoricien qui aurait remplacé précisément les nombres, puisque les nombres sont des entités ontologiques pour les pythagoriciens, Platon les remplace par les idées, avec I majuscule.
Hein. Donc les idées platoniciennes... Mais vous voulez dire que les idées platoniciennes seraient une relique de pensée magique ?
C'est une... Oh, magique, je ne sais pas. Mais en tout cas, un relouque de pensée pythagoricienne. Hein, où les pythagoriciens mettaient des nombres qui avaient une valeur donc ontologique. Platon n'a plus ses nombres à valeur ontologique, mais il a les idées à valeur ontologique. Bon, donc c'est une sorte de pythagoricien déviant, mais un pythagoricien, comme vous le dites, qui a une mystique des nombres. Il garde une mystique des nombres, même si il ne leur accorde plus aux nombres la valeur ontologique qu'elle avait chez Pythagore et ses continuateurs. Donc effectivement, je ne sais pas exactement. Hein, c'est une hypothèse que je fais. Est-ce qu'il a vraiment emprunté ça aux idées de l'Iran? C'est possible, peut-être que non. Le nombre 9 apparaît dans la mythologie grecque. Le nombre 9 de manière tout à fait précise, puisque Hésiode nous dit qu'une enclume mettrait 9 jours à tomber du ciel sur la terre et autant 9 jours pour tomber du sol terrestre jusqu'au fond du Tartare. Hein. Donc voilà, le nombre 9 qui apparaît comme mesure du temps et mesure aussi de l'espace ici. Bon, donc, après tout, Platon pouvait se contenter, si j'ose dire, d'une donnée grecque, ajouter des zéros, si on peut parler comme ça, mais il ne connaissait évidemment pas le zéro, et aboutir comme ça à 9000 ans. Hein. Voilà, bon, les hypothèses sont ouvertes.
Alors, il y a plusieurs mystères, évidemment, autour de la question de l'Atlantide. Le premier, le premier d'entre eux étant le fait que la première apparition de l'Atlantide, donc, qui se trouve dans le Timée, cette première apparition de l'Atlantide, qui est ensuite décrite davantage dans le Critias, cette première apparition de l'Atlantide, c'est une disparition de l'Atlantide. Donc, c'est une île qui apparaît en disparaissant. C'est un lieu qui surgit à l'instant où il est englouti ou quand on fait le récit de son engloutissement. Et de là, un autre mystère, peut-être. Bernard Sergent, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Après Platon, on a finalement assez peu d'occurrences de l'Atlantide chez les auteurs grecs, hein, chez les grands auteurs grecs, qu'ils lui soient contemporains, qu'ils viennent après lui. Je veux dire, il y a très peu de choses. On en trouve un peu chez Diogène Laërce, chez Diodore de Sicile, mais il n'y a pas grand-chose. Comment se fait-il que l'Atlantide ait pris une telle ampleur, encore une fois, dans l'inconscient collectif, qui est meilleur juge de la postérité des choses, et qu'en même temps, il y ait si peu de recensions, qu'en somme, ce soit davantage la modernité qui se soit occupé de l'Atlantide, et j'emploie le mot de modernité au sens où, depuis le 19e siècle en somme, avec la reprise du thème de l'utopie.
Bon, il est certain que le courant platonicien en Grèce ancienne lui-même s'est peu penché sur ces récits platoniciens concernant l'Atlantide. Sauf très tard. Hein. Beaucoup plus tard, Proclos, il revient.
Mais Proclus, on le connaît sous le nom de Proclus. Mais
oui, je dis Proclus, c'est plus grec.
C'est l'héléniste en vous qui parle.
C'est ça, et ça fait mal, ça. Hein.
Bon, au contraire, allez-y.
Bon. Les platoniciens, les successeurs même de Platon n'ont pas abordé la question, ne sont pas revenus là-dessus. À la génération qui suit Platon, il y a des auteurs, le plus connu c'est Théopompe, qui parlent de récits, qui parlent de d'îles situées également dans l'océan occidental, avec des traits qui rappellent un peu l'Atlantide. Hein. Donc, autrement dit, une fois que l'idée avait été lancée par Platon, d'autres s'y sont mis. Et Diodore de Sicile racontera aussi qu'il y a un archipel occidental, etc. Hein. Donc l'idée court en Grèce, mais pas forcément sous le nom Atlantide. Alors bon, la suite, c'est tout à fait autre chose, c'est une autre histoire en quelque sorte, c'est la redécouverte à la Renaissance des dialogues de Platon et de toute la littérature grecque ancienne.
Vous voulez dire que ce sont les néoplatoniciens, c'est Marcille Ficin qui a fait réapparaître l'Atlantide,
voilà. Je veux rappeler que cela se situe à la Renaissance parce que c'est avant la chute de Constantinople, des Byzantins et des Italiens qui ont apporté tous les textes grecs que nous avons, les emportés en Occident. Ça ne vient pas d'ailleurs, il faut bien le dire. Bon, donc ces textes, à ce moment-là, commencent à être lus par des hellénistes, évidemment. Et l'idée de l'Atlantide, qu'on découvre dans Platon, mais on n'a pas forcément, on lit Platon, mais on n'est pas forcément helléniste au sens historien du terme, évidemment. On n'a pas une connaissance du milieu de Platon, de ce qu'il voulait faire, de ce qu'il voulait dire, de ce qu'il avait les moyens de faire. Donc, on a isolé l'Atlantide de ses récits, alors que pour moi, ils sont inséparables des dialogues platoniciens. Bon, on les a isolés.
Et à tel point d'ailleurs qu'on ne sait pas en général que l'Atlantide se trouve.
Exactement.
On sait que l'allégorie de la caverne, c'est chez Platon, on ne sait pas que l'Atlantide, c'est chez Platon.
Exactement. Vous avez raison, le mythe a pris une autonomie. Hein. Et alors, cette autonomie, bon, elle est connue, elle a donné lieu à une bibliographie colossale au cours des 5 derniers siècles. Hein. Chacun y allant de sa localisation de l'Atlantide. Les toutes premières au début du XVIe, ça a fait tilt quand on a découvert l'Amérique. Il y en a qui se sont dit, ben voilà, l'Atlantide, c'était l'Amérique, et ainsi de suite. Hein. Là, le pli était pris, et les thèses là-dessus se sont multipliées.
L'Atlantide de l'autre côté de l'Atlantique. Ce sera le mot de la fin avec vous, Bernard Sergent. Merci.
Merci.
Merci donc, Bernard Sergent, d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes historien, archéologue, docteur en histoire ancienne et archéologie, chercheur au CNRS et l'auteur de « L'Atlantide et la mythologie grecque » avec une préface de Luc Brisson, parue chez L'Harmattan. Pour mémoire, car certains auditeurs nous l'ont demandé, Lucien Gerfagnon, qu'on recevait lundi, est l'auteur notamment de « Au bonheur des sages » qu'on trouve chez Hachette dans la collection plurielle et « Les dieux ne sont jamais loin » que vous trouvez chez Desclés de Brouwer. Et Pierre Brunel, qui était notre invité hier, a écrit avec Aeneas Bastian, Sisyphe et son Rocher aux éditions du Rocher. Je voudrais signaler aussi, pour être complet, enfin autant qu'on peut l'être, l'ouvrage de Pierre Vidal-Naquet sur l'Atlantide, une petite histoire d'un mythe platonicien qu'on trouve en point essai au Seuil en 2007. Demain, suite de cette semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à la mythologie grecque, avec Vincent Delcroix, philosophe et écrivain, qui viendra nous parler du tombeau d'Achille, qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection L'un et l'autre. Et sous la musique de Faya, François Connac me rappelle de mentionner Faya, il a raison. À la technique aujourd'hui, c'était Ariane Herbé. À la réalisation, donc, François Connac, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Adèle Van Rett, Éléonore Clovis et Gabriel Alpern.